Donc, ton atelier se situe dans un petit village. Bah, c'est le village où on est, justement, vu qu'on est dans ton atelier. Comment tu fais pour faire venir la clientèle ici, dans ce petit village, et comment tu fais pour la renouveler aussi? C'est une question un peu plus business que artisanale, mais c'est parce que vu que je fais des études dans la communication, j'aimerais un peu avoir ton insight, quoi.
Alors, la clientèle, en fait, j'arrive à la renouveler au fur et à mesure des expositions que je fais.
Ok.
Plus tu sors de ton atelier et plus tu te fais connaître, en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller en exposition, alors, autour de chez moi. Donc, je vais souvent à Chaumont-Avexin. Voilà, j'essaie de rester un peu local. Et puis, les élèves, alors j'ai fait évidemment des flyers, je suis sur les réseaux, donc Facebook, Instagram. Et en fait, le fait de donner des cours et étant bien référencé sur Internet, sur Google, les gens, en fait, quand ils tapent poterie Oise, ils tombent sur mon atelier.
Alors, t'as pas fait de pub sur Google? T'as pas mis de lien sponsorisé ni rien?
Pas du tout.
D'accord, ok.
Pas
C'est
du
juste avec
tout.
le référencement à force.
Exactement.
Ok.
Et puis, avec les avis. Alors, j'ai de la chance d'avoir des élèves qui font de très bons retours sur les cours.
Ok.
Donc, bah voilà, régulièrement, ils me mettent des avis qui fait que sur Google, je suis bien référencée. J'essaye de mettre régulièrement des nouvelles photos. Et puis les gens qui viennent en cours parlent aussi des cours, ils parlent de l'ambiance parce que c'est vrai qu'on s'habille bien. Et puis voilà, étant dans des boutiques, j'ai été sur des boutiques sur Beauvais, j'ai été sur des boutiques à Compiègne, des boutiques. Là, je suis actuellement à Moisselles-d'Aumont. Donc, au fur et à mesure, en fait, de faire des CE d'entreprise, de faire voilà, des expos, ça permet de te faire connaître.
Et
Et
les gens
puis,
viennent après avec
c'est
ça.
ça, exactement, exactement.
Donc les gens viennent plus. T'as reçu plus de gens qui viennent pour tes cours grâce à tes déplacements que à tes réseaux sociaux et à Internet en fait en général. Le physique marche mieux.
Oui.
Ok.
Oui, parce qu'en fait, comment dire, c'est un métier d'humain à humain. Tu
Ouais.
vois, et je veux garder cette dimension-là. Évidemment, si je décide de modifier ma façon de produire, évidemment que je vais avoir des répercussions derrière ou je vais certainement mieux gagner ma vie. Maintenant, il faut savoir quelle identité tu veux avoir. Et moi, j'ai envie de rester d'un humain qui parle à un autre humain. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus simple en échangeant directement avec les gens. D'avoir. Voilà, les gens, ils voient à qui ils s'adressent, ils connaissent la personne à qui ils achètent leur bol. Ouais, c'est de l'humain à l'humain, en fait, tout simplement.
D'accord.
Donc, plus je sors de mon atelier et plus je me fais connaître comme ça, et mieux c'est. Et tu vois, c'est pas obligatoirement pour y vendre mes pièces. Il y a des fois, je sors juste pour faire des démonstrations.
Ok, ah,
Pour le
ça doit être
plaisir.
intéressant.
Pour le plaisir que les gens, ben voilà, au lieu de trouver des potiers seulement dans le sud ou en vacances, ils vont tomber sur une potière ou un céramiste dans un village touristique, ben, ils peuvent se rendre compte aussi qu'il y a ces métiers-là autour de chez eux.
Ok. Ensuite, on va passer aux questions qui t'ont été posées sur Instagram. Donc, je prends mon téléphone parce que je les ai pas notées sur mon PC. Je suis un peu un branleur. Alors, je vais regarder. La première que j'ai, c'est celle de Jules. Donc, Jules, une question très technique. Je te l'ai déjà fait lire en amont parce que je la trouvais très technique. Donc, Jules demande, la poterie que vous pratiquez est-elle issue d'un savoir uniquement français ou vous servez-vous aussi des traditions tunisiennes?
Alors, la céramique, en fait, c'est un vaste domaine. Elle existe depuis des millénaires. Tu as, voilà, tu as de la, tu retrouves des poteries depuis tellement longtemps et tellement partout que obligatoirement, tu peux t'inspirer d'un pays ou d'une façon de façonner. Alors, en fait, tu vas, suivant les pays où tu es, tu vas plutôt être sur un travail de forme ou un travail de décor. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans la forme. Et là, je commence à aller vers le décor.
Ok. Qui est quelque chose de moins... qui est du coup plus tradition tunisienne, le fait des les décors, ou c'est juste dans la manière de le faire? Je sais pas si tu vois ce que...
Alors, ça... En fait, alors, je suis pas calée en histoire de la céramique tunisienne, particulièrement. Mais en fait, je fais ce qui m'inspire, ce qui me donne du plaisir.
Ouais.
Donc, ça peut être un mélange de différentes traditions céramiques. Non, c'est vraiment comment je ressens la matière entre les mains. Si un jour j'ai envie de décorer avec de la terre, en fait, tu peux très bien utiliser des terres différentes pour décorer une même pièce.
Ok.
Avec des couleurs différentes. Tu peux graver ta terre, tu peux faire pas mal de décors, mais non, j'ai pas d'inspiration précise.
D'accord, ok. Ensuite, j'ai une question de Adrien. Adrien, il te demande comment la poterie artisanale peut perdurer dans le temps à côté de la production industrielle. C'est vrai que c'est une question peut-être pas d'actualité directe. Mais c'est une question qui se pose peut-être depuis longtemps, parce que bah aujourd'hui les bols qu'on achète, c'est plus le potier qu'on avait à côté de chez soi comme avant, c'est beaucoup plus dans les magasins de grande surface, on va dire, d'objets alimentaires comme Ikea par exemple. Donc comment tu le sens, toi?
Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dans un métier qui est compliqué dans le sens où les industriels commencent ont commencé depuis maintenant peut-être 2 ans à copier le travail des potiers. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des poteries qui étaient très propres, très lisses, très droites, etc. Et aujourd'hui, ce qui se vend beaucoup, ça va être des poteries qui sont un peu tordu, où tu as l'impression de voir la trace du doigt, tu vois, de celui qui l'a fabriqué. Donc, y a presque cette idée que le céramiste, aujourd'hui, il est dans le folklorique, tu vois.
Ouais.
Plutôt, ouais, pour les vacances, pour... Voilà, il est plus là pour le plaisir du folklore.
Ouais, c'est plus, enfin, ça fait plus partie de la culture que d'un métier aujourd'hui. C'est
exactement.
Ça que tu essaies de
c'est
dire.
Ça. Sauf lorsque tu te retrouves avec des amateurs de céramique.
Ok.
Donc, moi, la plupart de mes clients me disent, je préfère acheter une vraie poterie où je sais que elle répond aux normes.
Mmh.
D'hygiène, aux normes françaises telles qu'on les entend. Je sais que ça va être de la qualité, je sais qu'il y a un artisan derrière et je sais que ce n'est pas fabriqué à la chaîne avec des produits qui peuvent être toxiques ou la première utilisation, quand je vais le mettre à la vaisselle, ça va se fissurer. Enfin, voilà. Donc, les gens préfèrent avoir entre les mains un produit noble, travaillé en atelier par un artisan, plutôt que à la chaîne.
En plus, ça doit aider le fait qu'ils puissent mettre un visage sur ce qu'ils achètent. Parce que acheter des bols à Ikea, par exemple, je reprends cet exemple, c'est peut-être des gens qui sont, enfin même sûrement, des gens qui sont très mal payés pour ce qu'ils font. Et on ne peut pas, en fait, identifier une personne qui a fait ça. Même si... C'est peut-être là la différence aussi qu'il y aura toujours, c'est que même si ils essayent de copier, on va dire, le côté artisanal, ils peuvent pas, enfin, on peut pas s'identifier à la personne qui l'a fait.
Oui. après, on a tous chez nous des bols qui viennent de grandes surfaces.
Bien sûr.
Hein.
Bien sûr.
Donc après, effectivement, ça reste un budget, mais en fait, ça dépend le sens que tu y mets. C'est-à-dire que quand tu regardes sur les réseaux, tu as beaucoup d'influenceurs qui vont commencer leur story ou leur réel avec une tasse à café, tu vois, avec... moi, je le vois souvent, en tout cas, dans les réels que je peux avoir sur Insta. Les gens vont avoir cette jolie tasse qu'ils vont touiller, et puis après, ils vont regarder à la fenêtre, etc.
Ouais,
les
vidéos esthétiques.
Ouais.
Ouais.
Et parce que, en fait, ce côté cocooning, tu l'as quand tu as des pièces qui te donnent un sentiment de bien-être. Okay. Et quand tu as une tasse entre les mains qui a été faite par un céramiste, tu y retrouves un sentiment de vérité. Enfin, tu vois, quelque chose de vrai, quelque
ouais.
chose de, je sais pas, du domaine du ressenti, en fait. Tu ne l'as pas quand tu achètes une pièce industrielle. T'as pas cette, c'est pas la même sensation, en fait.
Ouais.
Alors, ça, c'est mon point de vue, d'accord ? Et puis, tu vas retrouver aussi des pièces chez des restaurateurs. Pareil, quand tu regardes les publications de chefs, la plupart vont utiliser des poteries qui ont été faites par des céramistes. Ils ne vont pas utiliser des pièces qu'ils ont achetées en lambda, tu vois, ouais. Ici ou là, et qui vont être retrouvées dans n'importe quel restaurant.
Bah, même aujourd'hui, pour l'image, ça... Ça crée quelque chose de que ce soit artisanal, ouais.
Oui, et puis on est dans j'arrive pas à trouver le terme, mais dans la vraie dans la vérité, enfin dans le concret, dans
ouais.
quelque chose de vrai. Et puis t'as cette notion d'identité aussi. Est-ce que t'as envie d'avoir la même pièce que ton voisin, que ton professeur, que est-ce que t'as envie d'avoir exactement les mêmes choses chez tout le monde?
Bah,
ou est-ce que t'as
c'est une
envie
question
d'avoir
intéressante.
est-ce
Ta
que t'as
propre pièce.
voilà.
Et est-ce que tu crées des... Enfin, c'est une petite question qui me vient là. Est-ce que c'était déjà arrivé de créer des pièces spécialement pour quelqu'un?
Ah oui, ça fait partie d'un des travails que j'ai, où j'ai des pièces sur mesure, en fait.
D'accord.
Des
Okay.
gens qui ont envie d'avoir des pièces personnalisées avec soit une forme, soit une couleur, soit un décor, un prénom. Enfin, tu vois, des choses vraiment personnalisées. Et donc, ils se sentent uniques. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Unique.
Ok.
Soit tu as envie d'avoir des choses uniques, ou soit tu as envie
d'être
d'avoir comme
comme
tout
tout
le
le monde,
monde.
entre guillemets. Ouais.
Exactement.
Ok.
Donc, c'est vraiment pour moi la plus-value.
La plus-value du ouais, de l'artisanat. D'accord. Tu as très bien répondu à la question. ensuite, j'ai une question de Camille qui demande comment tu trouves ton inspiration pour tes créations. Donc, tu as un peu répondu. Mais est-ce que tu peux, on va dire, résumer ce que tu nous as dit un peu tout à l'heure pour Camille?
Alors, tu vois, si j'ai choisi mon nom, Atelier Terre Nature, c'est parce qu'il y a des choses qui me procurent vraiment beaucoup de bien-être. C'est de travailler la terre et de faire mes balades dans la nature, en fait. Je vais m'extasier devant une petite fleur, devant un papillon, devant un grand arbre. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment des environnements qui m'apaisent. Et pour le coup, quand je crée, j'ai ce besoin de quelque chose qui n'est pas artificiel.
Ouais.
Donc, j'ai besoin soit dans la forme ou soit dans l'émail qu'il y ait ce côté naturel qui ressort. Donc, je vais laisser, par exemple, mes pièces d'aspect brut à l'extérieur pour avoir vraiment ce toucher, ce lien avec du concret.
Okay.
Pas quelque chose de lisse et qui m'apporte aucune émotion. J'ai besoin de vivre des émotions. Et quand je sors des pièces de mon four, il faut que ces pièces-là me procurent quelque chose. Donc, si tu regardes mes productions, je vais avoir des pièces qui vont ressembler à des feuilles. Je vais avoir des décors qui ressemblent à des objets de la nature. Mon émail qui va ressembler à du granit ou à de la lave. Enfin, tu vois, j'ai besoin que ça me rappelle quelque chose de vrai. De palpable, qui me crée des
De
émotions,
naturel.
en fait. Donc, voilà, c'est pour ça. Ouais, il faut que ce soit naturel, que ce soit, tu vois, ici, tu as une pièce qui est simplement engobée avec de la terre.
Celle-là.
Celle-là, tu vois.
Ouais.
Et voilà, donc ça, c'est de la terre noire sur de la terre blanche. Et puis, voilà, je ne sais pas, des éléments qui me font penser à la nature. Donc, après, tu vas retrouver beaucoup ce discours-là chez les céramistes. Là, tu en as beaucoup qui vont dire « je m'inspire de la nature », mais parce que quand tu travailles la terre, tu as ce
lien.
Lien avec la terre, en fait. La terre, mais la terre avec un grand T, tu vois, vraiment
ouais.
La mère,
enfin,
la mère nature, quoi. C'est, ouais, ce lien, il est très fort entre céramistes, en fait.
Ok, donc même si voilà, c'est un peu un point commun à la plupart des céramistes,
je pense,
la nature.
Je pense. Quand tu lis ce qu'écrivent les céramistes ou quand tu les entends parler, vraiment, la terre, c'est le point commun entre tous. Et c'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de la nature. Tu vois, là-haut, j'ai un petit vase. Mais ça va être... alors, c'est peut-être pas la nature sur la Terre,
ouais, est-ce que tu peux,
mais
tu
dans
peux
la
le
mer.
Décrire pour...
Alors, en fait, c'est un vase qui représente une lune.
Mm-hmm.
Et par-dessus, j'ai mis des morceaux de terre, mais qui ressemblent un peu à des coraux.
Ouais.
Donc, tu te retrouves entre terre et mer, entre le ciel et la mer. Et... ouais, tous ces éléments en fait qui nous entourent, ben voilà. Et tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai créé cette pièce-là, j'étais aux Beaux-Arts et je ne savais pas du tout ce que j'allais créer.
Mmh.
Et donc j'ai décidé de laisser mes mains parler. Et à la fin de la séance, ben voilà, j'ai fait ce vase en forme de lune avec un effet corail dessus. Et ouais, c'est une pièce qui me parle beaucoup parce que elle est elle fait appel à tous mes sens, en fait.
Donc, la plupart de tes inspirations viennent de ce que tu peux voir, en fait.
Ce que je vois.
Ce que tu peux voir, ressentir avec la nature, avec tes balades que tu disais juste avant.
Exactement, oui.
D'accord.
Ouais, ouais,
donc,
tout est
lié, ouais.
Tout est lié.
J'ai une dernière question. C'est Loretta, que tu connais, qui demande quel est le futur de la poterie. Donc, ça rejoint un peu la question sur l'industriel. Est-ce que... La poterie a un grand futur pour toi. Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis du futur de la poterie?
Alors, je suis optimiste parce que la création, elle sera toujours là et il y aura toujours des choses qui seront comment dire? Enfin, la création, il n'y a pas de limite en fait. Alors, évidemment, tu ne crées rien. Mais tu te transformes.
Mmh.
Mais il y a toujours des nouveautés parce que déjà, les façons de produire évoluent. Est-ce que tu savais, par exemple, qu'aujourd'hui, tu peux utiliser une imprimante 3D pour faire de la poterie?
Alors, pas vraiment. Je savais que tu peux faire beaucoup de choses, mais pas de la poterie, littéralement.
Oui, tu as des imprimantes qui ont été créées il y a des quelques années de ça, où au lieu d'avoir un fil... comme on peut avoir dans une imprimante 3D traditionnelle,
mmh.
il y a, tu mets de la terre, en fait. Et donc, tu peux faire des impressions 3D d'argile.
OK.
Voilà. Donc, et tu as voilà, des artistes qui se sont orientés sur cette façon de produire et qui vont faire des pièces magnifiques. Très légère parce que c'est un fil d'argile qui est qui travaille donc après voilà tout dépend ce que tu appelles la céramique.
Mmh.
Mais c'est vrai que le métier artisanal sur le tour etc. maintenant ça fait des centaines d'années que ça existe. Alors avant il n'y avait pas d'électricité donc tu faisais tourner le tour différemment, mais ça a toujours existé. Mais c'est vrai qu'il faut savoir évoluer avec son temps. Si tu restes ancré sur le passé, je ne suis pas sûre que le métier de potier peut perdurer. Il faut savoir toujours se remettre en question. Il faut toujours essayer des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Il ne faut pas rester enfermé. Donc, le métier à part... Enfin, le métier tel que je le connais aujourd'hui, il faut savoir le faire évoluer.
Mmh.
Maintenant, il faut avoir cette envie-là et cette curiosité-là.
Est-ce que t'as pas peur à cause des intelligences artificielles aussi? Parce que on sait que c'est pas littéralement une création 100% véritable, mais est-ce que t'as pas peur qu'un jour, en sachant que du coup il y a les imprimantes 3D que tu viens d'en parler, donc c'est pour ça cette question m'est venue, est-ce que t'as pas peur qu'en combinant les IA capables de générer des images et l'imprimante 3D, on puisse arriver à des résultats presque humains?
Je suis pas certaine de ça. Maintenant, c'est une réalité, c'est-à-dire que bon, je te parle de ça d'il y a longtemps, vu mon grand âge, n'est-ce pas? Mais en fait, à l'époque, tu vois, on avait vu des films qui nous parlaient de voitures qui volaient, on nous parlait de choses qui nous paraissaient totalement impossibles, en fait. C'était du domaine de science-fiction.
Mmh.
Et puis, aujourd'hui, on se rend compte que y a des choses, tu vois, les voitures autonomes, etc. Tu vois que ça vient sur le marché. Donc, c'est toujours pareil. Il faut savoir que le monde, il évolue. Que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie, ce n'est pas la question, en fait. Ouais. Le monde, il évolue. Donc, si tu veux, toi, survivre, il faut que tu évolues aussi en même temps. Sinon, tu restes sur des trucs du passé et ça devient encore plus un métier de niche, en fait, tu vois.
Ouais.
Où il va falloir aller que vers des amateurs de ceci, de cela, enfin voilà. Donc,
et
il faut savoir évoluer.
C'est l'inverse, quoi. C'est de développer ce que tu fais pour le grand public.
En fait, il faut toujours trouver ce qui te plaît pour pas dénaturer ton identité.
Mmh.
Mais en même temps, accepter que le monde, il évolue. Donc, il y avait dans la question d'avant, là, tu m'avais dit, par rapport à l'industriel, c'était quoi déjà?
Alors, je vais la reprendre parce que j'ai plus non plus. Je t'avais dit...
Attends, c'était Adrien, il l'avait dit, donc par rapport... Parce que je voulais dire un truc, mais du coup, je suis partie sur autre chose.
Attends, j'y vais, elle doit être par là. Ouais. Alors, c'était... en vrai, comment la poterie artisanale pourrait perdurer dans le temps aux côtés de la production à la chaîne?
Ah, c'est ça. Et puis après... Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les normes pour la céramique sont de plus en plus drastiques. En fait, on s'est rendu compte que certains produits qui étaient utilisés par les potiers d'avant pouvaient être nocifs, toxiques pour les céramistes qui travaillaient les matériaux,
pour les consommateurs.
Mais aussi pour les consommateurs. Donc à aujourd'hui, il y a de plus en plus de normes qui sont mises en place, qui du coup entravent le travail des céramistes. Par exemple, sur les émaux, il y a des choses qui étaient avant autorisées et qui aujourd'hui ne le sont plus.
Ok.
Et donc, ça remet en question le travail justement des émaux. Et donc, il faut savoir vraiment... Ouais, il faut savoir évoluer, en fait. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, évidemment, il faut se faire entendre. Mais tu as le CNC, donc le Collectif National des Céramiques, qui essaye de faire en sorte que le métier de potier céramiste continue d'exister. Mais en même temps, toutes ces normes qui nous sont imposées font qu'au fur et à mesure, tu sens bien que on va avoir du mal à continuer de travailler dans nos petits ateliers en faisant nos petites recettes artisanales.
Ouais.
À aujourd'hui, tu as par exemple, si tu crées ton émail, il va falloir que tu fasses tester ton émail pour être sûr que c'est pas toxique. Sauf que chaque pièce que tu testes, il faut savoir que déjà, elle va être détruite, évidemment, puisqu'elle va être passée sous plusieurs systèmes de je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, ils vont les tester. Mmh. Et donc, le temps que tu as passé à la produire, le matériel que tu as utilisé, enfin bref, tout, déjà, c'est un coût à zéro. Et en plus, ça te coûte des sous pour pouvoir le faire tester. Et à chaque nouvel émail, il faut que tu le fasses tester. Et du coup, c'est Et donc, à chaque fois que tu vas vouloir créer un nouvel émail, tu vas devoir payer.
Ok.
Sachant que notre métier nous coûte déjà très cher, nous, en tant que céramistes. Parce que les outils qu'on utilise coûtent cher. Le moindre four, ça coûte 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et encore, ça dépend. Si tu peux en avoir à 7 000 euros, enfin, c'est très cher. La terre devient chère. On utilise de l'électricité qui coûte
beaucoup
très cher.
En plus.
Voilà. Et en fait, mis bout à bout, notre métier devient, je dirais pas un métier de luxe, mais au départ, c'était un métier où tu allais juste chercher de la terre dans les veines d'argile, dans les champs. À aujourd'hui, il y a tellement de normes qui se mettent en place que tu ne peux plus faire tout ça. Tu ne peux pas faire ta petite tambouille, en fait. Donc, au fur et à mesure, les prix augmentent.
Et donc, tu es obligé d'augmenter tes prix, toi aussi.
Exactement. Donc, ça devient vraiment un métier. Je ne dirais pas qu'on va tomber dans le luxe, mais presque.
Ouais.
Mais les gens sont tellement habitués à aller acheter dans l'industriel des pièces pas chères que ça nous met une concurrence qui est déloyale parce que, en plus, les normes ne sont pas respectées. En fait, tu peux acheter des pièces qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes normes que nous, et pourtant qui sont vendues. Et nous, ici, on va créer les pièces où, justement, on va nous dire « Ah ben non, cette pièce-là, ça ne passe pas. » Donc, autant... alors, je ne vais pas citer... certains sites sur lesquels tu peux acheter des pièces à 90 centimes, voire même tu as du 100% offert. Tu vois. Et ce sont des pièces qui ont été créées dans des conditions où, justement, les gens ne sont pas du tout bien rémunérés. Donc, voilà. Où il y a du transport. Donc, tu n'es pas du tout dans l'éco-responsabilité du transport. Où les normes d'hygiène ne sont pas respectées. Où les pièces... Enfin, tu vois. Et en fait... C'est assez ambivalent parce que, tu vois, après la Covid, tu as beaucoup de gens qui, justement, ont dit « Moi, je veux retrouver du sens, je veux consommer différemment, je veux du vrai dans ma vie. »
Au final, c'était plus
et
des
au
paroles.
Final, et au final, mais en fait, je pense que les gens sont vraiment de bonne volonté. Ils ont envie de ça. Sauf que la société, elle ne leur permet pas de faire ça. C'est-à-dire manger local, manger bio. C'est très compliqué. Donc, consommer, acheter de la vaisselle locale. Alors, bio, ça n'existe pas, hein, d'accord ? C'est naturel au maximum. Ça va avoir un coût tellement important qu'ils vont de toute façon hein, se rabattre sur les industriels.
Ils ne peuvent pas acheter 8 de tes bols pour 10 euros.
Tu vois, la moindre assiette, c'est 20 euros.
Ouais, donc, achètes 4, t'es déjà à 80 euros, c'est pour
certaines personnes. Sachant que c'est censé être des pièces que tu utilises au quotidien. Moi, je le vois bien, les pièces que j'ai à la maison, donc mes imparfaites, on les met au lave-vaisselle, on les met au micro-ondes, il n'y a aucun problème. Ce qui pose problème, c'est quand tu sors les assiettes du lave-vaisselle, que tu ne fais pas attention, tu les cognes, ça les ébrèche, tu vois.
Ouais.
Donc... est-ce que tu as envie de mettre effectivement 120 euros dans un service pour que ce soit abîmé ?
La question se pose.
Voilà, exactement. Donc, il faut savoir quel type de pièces tu peux proposer pour que les gens y trouvent du plaisir quand même à t'acheter des pièces sans pour autant ils perdent leur porte-monnaie en fait.
Ouais.
Donc, il faut toujours se remettre en question, toujours être créatif. Écouter aussi comment évolue le métier, comment évoluent les façons de procéder, etc. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, moi, je ne suis pas trop dans le moulage, dans le coulage, je préfère être dans le tour. Mais effectivement, si tu es dans le coulage, tu peux faire peut-être 50 pièces en une heure, quand moi, je vais peut-être en faire 25. Donc, voilà. Après, il faut savoir ce que tu veux,
l'identité que tu veux assumer.
L'identité que tu as, exactement. Et okay. Après, communiquer sur ton identité, communiquer sur ta façon de fonctionner.
Ah, c'est une force, justement.
C'est une force. Tu sais, quand on parle d'un bol, dans notre métier, on dit qu'autour, un bol, c'est 5 minutes plus 10 ans.
C'est
parce que Parce que pour réussir à faire un bol, eh ben, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'entraîner.
Ouais.
Beaucoup okay. s'entraîner, beaucoup s'entraîner, beaucoup s'entraîner. Et quand tu achètes une pièce chez un céramiste, c'est pas que la pièce que tu achètes. Ça va être le temps, enfin, la formation du céramiste, ça va être le temps qu'il va y passer, ça va être le matériel qu'il a dû investir.
Tu payes l'expertise, pour pouvoir... en fait.
Exactement, exactement. Et c'est comme dans n'importe quel métier. Tu sais que la pièce que tu as achetée, il y a une histoire derrière.
Mm-hmm.
Quand tu vas chez l'industriel, il n'y a pas d'histoire derrière. C'est juste du commerce. Donc, où est-ce que toi, tu as envie d'être en tant que consommateur ?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est aussi c'est de là où est-ce que les consommateurs sont prêts à mettre plus d'argent pour des choses plus identitaires, plus personnelles, ou des choses moins chères, voire parfois beaucoup moins chères sur certains sites, mais qui n'ont pas d'âme, en fait. Les objets n'ont pas d'âme.
C'est ça. Il n'y a pas d'histoire derrière. C'est juste du commerce. Donc, soit tu as envie de te démarquer un peu de ce système capitaliste.
Ouais.
Et du coup, tu cherches vraiment de l'identité. Et donc, oui, effectivement, tu n'auras peut-être que 4 tasses dans ton placard. Mais est-ce que ce n'est pas juste suffisant quand tu es à 2? Avoir 4 tasses, c'est peut-être suffisant. Et au moins, tu sais que tu as respecté la personne qui a produit. Tu sais que derrière, ce n'est pas « je fais de l'argent sur votre dos », en fait.
Mm-hmm.
C'est non, j'ai permis à quelqu'un d'avoir un vrai métier qui essaye d'avoir des pièces concrètes et réelles, quoi, avec un vrai savoir derrière. C'est voilà, ouais, ça dépend. En fait, ça dépend du consommateur. Tout dépend du consommateur. Quel consommateur tu as envie d'être?
Donc, pour le futur, c'était ça la question quand même de base. Pour le futur, tout va dépendre du consommateur pour toi.
Oui.
Ok.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, de toute façon, j'aime mon métier et je pense que quand tu aimes quelque chose, tu arrives à transmettre aussi pourquoi tu fais ça. Et tu vois, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les personnes qui m'achètent des pièces, elles sont vraiment dans le plaisir de la pièce. Elles ne sont pas dans l'achat compulsif.
Oui, oui. C'est plus dans le j'ai besoin. Enfin, c'est pas j'ai besoin, c'est plutôt j'ai envie.
J'ai envie, exactement. J'ai envie parce que quand je vois cette pièce-là, ça me parle. Parce que l'anse, je la trouve pratique. Parce que j'aime le galbe. Parce que. Enfin, tu vois, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas comme quand tu vas dans un grand magasin et que tu as besoin de 5 tasses et puis tu achètes
5 tasses. Voilà. Les 5 premières tasses qui viennent.
Exactement.
Ok. Alors, on arrive à la dernière question, qui est une question pour les gens qui écouteront. C'est quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la poterie, la céramique aujourd'hui ?
En tant que métier ?
En tant que métier et en tant que passion. T'as pas le droit de dire évidemment. Venez à mes cours, c'est tout.
Est-ce que tu as des conseils ? C'est pas l'idée, en fait. Alors, on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que peu importe le métier dans lequel tu veux être, il faut que tu te poses la bonne question de est-ce que je veux y passer mon temps ? Mais le temps global, en fait.
Mm-hmm.
Parce que c'est énergivore, parce que c'est exclusif. Et donc, c'est un métier très gratifiant. En tout cas, être potière, je ne me suis jamais autant réalisée qu'en étant dans mon atelier. Mais c'est aussi... alors, je les vis pas comme des sacrifices, mais parce que c'est une véritable décision, en fait, d'accepter certaines choses. Et si t'es pas prêt à les accepter, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai accepté de ne plus être habillée en robe et en talons toute la journée. Tu vois, je suis toujours habillée de manière... voilà, je suis en basket parce que c'est plus pratique, parce qu'il faut que je puisse sentir la pédale aussi sous mon pied. Il faut que je sois à l'aise, donc je suis souvent en pantalon souple. J'ai des vêtements qui craignent pas, donc c'est sûr que je vais pas acheter des vêtements tous les 4 matins parce que bah, déjà, ça, enfin, voilà, je n'ai pas l'utilité, en fait.
Ouais.
Donc déjà, là-dessus, il faut que tu sois conscient de ça. Et il faut que tu sois conscient aussi que de vendre ta céramique, ça ne va pas te permettre de t'acheter une voiture neuve à 40 000 balles.
C'est un fait.
C'est un fait. Il faut que tu sois conscient que tu ne vas pas aller faire des vacances au ski tous les mois de février et que tu ne vas pas partir à l'étranger tous les ans.
Mmh.
C'est un fait également. Que tu vas souvent avoir les mains sales et que tu vas pas avoir la possibilité d'avoir des ongles longs tout le temps, sauf en vacances, tu vois. En fait, c'est des choses dont il faut être conscient. Mais maintenant, à refaire, je le referai sans problème. Donc, l'important, c'est si tu aimes ce que tu fais et que tu acceptes toutes les... toutes les conditions, ouais, c'est ça. Parce que c'est plus des contraintes.
Puisque ça peut l'être pour des gens.
Ça, ouais, mais si déjà... En fait, il faut savoir ce à quoi tu es prêt à renoncer.
Ouais, ok.
À partir de là, peu importe le métier que tu vas choisir, hein, si tu es prêt à renoncer ouais, à tes week-ends ou à tes soirées, ou... bah, vas-y, lance-toi en fait.
Lance-toi, t'as rien à perdre.
T'as rien à perdre. Et au contraire, par contre, il faut être certain d'avoir cette capacité de travail.
Ouais.
Parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, parce que c'est une somme de travail énorme. Tu peux pas dire, oh bah non, aujourd'hui je glande.
Ouais, non,
parce que si t'as glandé, bah, si t'as glandé aujourd'hui, ça veut dire que demain, tu pars de zéro en fait. Et quand tu as ta petite entreprise, bah, il faut travailler. Et c'est fatigant, c'est éprouvant. Donc, se dire que tu vas utiliser ta passion pour en faire ton métier, attention.
Ok.
Attention. Mais par contre, soyez potier et céramiste, c'est vachement bien. Les mains dans la terre, c'est vachement bien. C'est vachement bien.
Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast, de ce troisième épisode de Checkpoint. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire, une petite dernière chose?
Bah, merci en tout cas à tous ceux qui écouteront. Merci à toi, Lucas, de m'avoir permis de parler de mon métier.
Bah, c'était un plaisir pour moi aussi, franchement. C'était super cool. J'ai appris pas mal de trucs et j'espère aussi que les gens ressentiront ce que tu as voulu transmettre, en fait. Et que tu remplis, je trouve, parfaitement ce que j'essaie de mettre en place dans ce podcast. En fait, c'est de développer la culture générale des gens. Ça se trouve, il y a des gens qui vont écouter ce podcast qui... n'auront rien à faire de la poterie, mais qui vont apprendre des choses sur la poterie, l'artisanat, comment ça marche, quels sont les débats actuellement, les contraintes, etc.
Oui,
c'est ça. Que je trouve ça hyper intéressant.
Je trouve que ton podcast permet justement ça, c'est-à-dire que ça vulgarise certains métiers, ça permet aussi de parler concrètement de la vie en général. Hein. C'est, le plus important, c'est de pouvoir se réaliser. Et peu importe le métier, peu importe ce que tu vas faire, l'important, c'est d'entreprendre, en fait. Tu ne peux pas te tromper, tu ne peux que apprendre. Donc, tous ceux qui ont envie de se lancer, que ce soit, en tout cas dans l'artisanat, que ce soit dans la couture, que ce soit dans n'importe quoi, osez. De toute façon, ça ne peut être que positif, puisque on apprend. Donc, voilà, moi, tes podcasts, je les trouve intéressants parce que tu brasses énormément de savoir-faire, d'état d'esprit. Donc, tu coupes quand tu veux.
Bien sûr. je vais faire ma petite phrase de fin qui est vous venez de passer un nouveau checkpoint et on se retrouve pour le prochain. Dans 2 semaines, même heure, même jour. Et sur ce, au revoir.
Au revoir.
Et...